Belgique, juillet 2015. Une véritable catastrophe. Ce sont les mots employés par le Premier ministre pour qualifier la situation à la centrale nucléaire de Tihange. Insuffisamment ravitaillée en eau, les réacteurs 2 et 3 de la centrale sont progressivement entrés en fusion. Après les pillages des premières heures, Huy a désormais des allures de ville fantôme. À Liège, située à une trentaine de kilomètres de la centrale, on assiste à des véritables scènes d'exode. L'évacuation, censée se passer dans le calme, a laissé place à un véritable chaos. Plus d'une centaine de personnes sont mortes dans des bousculades à l'attente des bus censés évacuer la zone. La radioactivité constatée dans la Meuse a atteint des niveaux records. Plus de 3 millions de personnes sont désormais sans électricité et sans eau potable.
Pas de panique, nous n'en sommes pas encore là. L'accident de la centrale de Fukushima au Japon soulève à nouveau des questions sur la fiabilité des centrales nucléaires dans le monde. Dans les années 80, la catastrophe de Tchernobyl avait marqué l'esprit des Européens. Aujourd'hui, les Asiatiques sont confrontés à la terreur de la radioactivité civile avec la catastrophe de Fukushima. On nous disait que le nucléaire est une énergie des plus sûres qui soit. À l'évidence, c'est loin d'être le cas. L'impact humain et environnemental d'un accident grave est phénoménal. Dans un rayon de 30 km autour de la centrale, on ne peut plus y habiter. La chaîne alimentaire est gravement perturbée et on constate une augmentation de cancers, de malformations à la naissance et de décès prématurés. L'accident de Fukushima a réveillé ses peurs, enfouies depuis Tchernobyl, et de nombreux pays qui exploitent le nucléaire ont d'ores et déjà pris des mesures. L'Allemagne, par exemple, a programmé la fermeture de ses plus vieilles centrales. La Commission européenne a programmé des stress tests des réacteurs en service dans les 27 pays membres. Nous nous sommes plongés au cœur de ce sujet, portant nos micros à Huy à un quart d'heure à vélo des trois réacteurs de Tihange. Comment vit-on à côté des centrales nucléaires ?
C'est vrai que c'est un peu insécurité, parce qu'on sent l'insécurité, parce qu'il y a quand même fort problème au Japon, et ça peut nous atteindre n'importe quand.
Pour moi, insécurité, non, parce que je pense qu'il faut beaucoup pour que cette centrale s'y explose. Il faudrait qu'on mette une bombe à l'intérieur.
Pas en sécurité du tout.
Ces craintes sont-elles justifiées ? Anne-Sophie Huget, porte-parole d'Electrabel.
Les mesures de sécurité sont continuellement adaptées, bien entendu. Les centrales ont à l'époque déjà été construites sur base de critères d'exigences très stricts en matière de sécurité. Mais effectivement, tout évolue et nous suivons ça de très près. Il faut savoir que nous faisons des réévaluations décennales tous les 10 ans de l'entièreté de nos centrales.
Un suivi en matière de sécurité qui se veut régulier et sérieux, mais qui n'a pas toujours fait partie intégrante des stratégies d'investissement d'Electrabel. Des stratégies qui ont beaucoup inquiété certains employés. Explication avec Géry Lacroix, agent de radiosûreté à la centrale de Tihange.
Une crainte qu'on peut avoir, c'est que si notre actionnaire exigeait, comme il l'a déjà fait au début des années 2000, de faire un nucléaire où on fait beaucoup d'économies sur les frais de fonctionnement pour pouvoir gagner plus d'argent juste à des fins financières. Ce qui a été fait en 2001 jusqu'en 2005-2006, je crois que j'aurais encore fort peur du nucléaire. Ils ont même, à l'époque, ils ne se cachaient même pas de dire qu'ils voulaient faire de la production nucléaire low cost. Le mot est effrayant. Quand on voit la catastrophe du Japon, on ne peut pas tolérer ça.
Même si depuis, Electrabel dit investir à hauteur de 100 millions d'euros par an dans la sécurité de chacune de ses centrales, les communes avoisinantes restent perplexes. Les échos parvenus au bourgmestre d'Amé, Jean-Michel Javot, sont quelque peu déconcertants.
Ici même, si les nouveaux réacteurs Tihange 2 et Tihange 3 ne posent aucun problème, plusieurs fois de l'intérieur même de la centrale, des travailleurs nous disent que lors des révisions de Tihange 1, on s'aperçoit de plus en plus que les enceintes, que les procédés de sécurisation s'affaiblissent.
À ce jour, l'incident le plus grave survenu dans la centrale de Tihange a été classé niveau 2 sur l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Sur cette échelle, le niveau 2 indique des défaillances en matière de sécurité. Il s'agit d'un incident sans rejet de substances radioactives. Si un accident majeur a pu être évité jusqu'ici à Tihange, c'est en partie grâce aux techniciens de la centrale, bien conscients du danger. Georges Canas Garcia, électricien à Tihange.
Les gens, ils sont conscients qu'ils travaillent dans une machine qui ne fait pas du chocolat. Hein. C'est, Ils savent très bien que si une erreur venait à arriver, ben, ce serait notre mort du nucléaire tout de suite. Là, je pense que si on aurait un incident aujourd'hui, un incident d'Inès 3, qui n'est pas encore le plus gros, mais on n'a jamais obtenu, on n'a jamais eu ceci à Tihange, imaginons qu'on aurait un incident d'Inès 3, donc avec un rejet à l'extérieur, là, je pense que le nucléaire s'est terminé en Belgique. Hein. Il est totalement condamné. Donc, ils n'ont pas intérêt, c'est leur machine. C'est leur calepin.
Malgré les dispositifs de sécurité, l'argent dépensé et la conscience des dangers de la radioactivité, la technologie n'est jamais à l'abri d'un éventuel accident. Jean-Michel Javot.
Ce qui se passe au Japon, dans le pays le plus sûr, c'est-à-dire ce n'est plus en Russie en disant, vous savez, c'est une vieille république soviétique, il n'y a pas beaucoup de sûreté. Ce n'est plus une vieille centrale des États-Unis où déjà aux États-Unis on disait, mais enfin, ce sont des vieilles centrales. C'est au Japon, avec plusieurs centrales, dans un des pays les plus sécurisés. Et donc, ça nous rappelle juste, je sais qu'on l'a beaucoup entendu, mais que, d'une part, que le risque zéro qu'on essaie de nous faire croire n'existe jamais. Et deuxièmement, que le nucléaire, c'est quand même une technologie qui, par moment, peut échapper à l'homme.
Au-delà des critiques, fondées ou non, sur la sécurité dans les centrales nucléaires belges, une question subsiste, lancinante et de plus en plus pertinente au regard des événements japonais. Malgré la prévention en amont, que se passerait-il en cas d'accident grave? Si demain l'impensable venait à se produire, les Belges seraient-ils préparés à affronter les spectres radioactifs? Retour à oui pour un petit tour d'horizon.
Des exercices d'évacuation, vous en avez déjà fait ou?
Non, une fois à l'école en secondaire, on n'en a fait qu'une fois, mais c'est tout. Sinon, non.
Donc il n'y a pas vraiment de suivi de ce point de vue-là?
Ah non, non, de ce point de vue-là, on sait très bien que le jour où il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où aller, on ne sait rien.
Niveau plan d'évacuation, est-ce qu'on vous a déjà informé?
Non, rien.
Donc jamais d'exercice?
Non. Okay. Puis, je ne suis pas forte pour les exercices.
Hein. Non, rien du tout. Le seul truc que je sais, c'est qu'il y a un médicament à prendre que normalement ils donnent en pharmacie. Mais sinon, non, je ne sais rien du tout sur les consignes. Je suis sûr qu'on cache des choses, ça c'est sûr et certain, mais bon, peut-être moi on en sait mieux, c'est quoi.
Des propos qui ulcèrent le planificateur d'urgence de la caserne de pompiers de Huy, Francis Lintout.
Ok. Quelque part, on a presque envie de dire à la personne, mais il y a autre chose que les feux de l'amour et la roue de la fortune à la télévision. Hein, Radio Nostalgie, c'est beau, mais il y a aussi des radios qui diffusent de l'info et je crois qu'il y a, il y a un devoir aussi du citoyen.
En effet, une campagne d'information a été lancée récemment par les autorités belges pour informer les gens sur les dangers de la radioactivité et les plans catastrophes. En cas d'accident nucléaire, c'est le fédéral et plus précisément le ministre de l'Intérieur qui prend les choses en main. Le centre de crise gouvernementale, actif depuis 1988, coordonne les activités et les délègue sur le terrain aux gouverneurs et bourgmestres concernés. Les entités locales doivent alors veiller à appliquer leur plan d'urgence dans les écoles et autres institutions locales, informer les citoyens et, le cas échéant, procéder aux évacuations. Benoît Ramaker, porte-parole du centre de crise.
Donc si la décision au niveau national est prise d'évacuer, le gouverneur de province avec les bourgmestres vont exécuter la mesure d'évacuation. Concrètement, ils vont réquisitionner des bus, des techs ou bien de firmes privées. Ils vont informer la population et dire « voilà, avis aux habitants de tel village, rendez-vous à tel endroit pour prendre les bus pour être évacué. » Ou bien, vous partez avec votre voiture. Mais ça va être organisé. On veut éviter une évacuation sauvage, parce que si une évacuation est sauvage, c'est-à-dire que les gens prennent leur voiture et vont dans tous les sens, on risque d'avoir des accidents, on risque d'avoir des embouteillages, et ça c'est plus dangereux, parce que les gens risquent d'être coincés, on va dire, si le nuage passe.
Même si tous les plans semblent fonctionner parfaitement sur le papier, les conditions réelles restent imprévisibles. En effet, aucun exercice grandeur nature n'a encore été réalisé à ce jour. Difficile dès lors de prévoir la réaction de la population. À Verlaine, un village situé à une dizaine de kilomètres de la centrale, le bourgmestre Hubert Jaunet s'attend à des mouvements de panique.
La pagaille, on s'attend à avoir une pagaille parce que c'est bien des plans, mais bon, dans la tourmente et dans la pagaille qu'il pourrait y avoir à ce moment-là, ça peut poser problème. Les parents vont vouloir venir rechercher leurs enfants alors qu'ils doivent être confinés à l'école. Et les parents doivent rester chez eux, ils ne peuvent pas bouger. Donc tout ça, ça pose problème. Donc tout, s'il y avait un réel problème, évidemment, il y aurait une fameuse pagaille dans le village. Et tout ne serait peut-être pas respecté. Donc nous, communes, je veux dire, nous pouvoir, il va falloir essayer de régler ce problème-là, de pouvoir mettre en place ce qu'on doit faire, mais ce ne sera pas évident, évidemment.
Quant au bourgmestre d'Amé, Jean-Michel Javot, il pointe du doigt les faiblesses de ses plans.
Par exemple, le fait que lorsqu'il y a les exercices, on entend les sirènes, mais on n'entend pas le message. Et donc la plupart des gens, ils ouvrent la fenêtre pour entendre ce qu'on dit. Or, le premier message, c'est de fermer la fenêtre, de rester confiné chez soi. On nous dit, regardez, écoutez la radio, bien regardez la télé. Mais s'il y a un problème à la centrale, il n'y a plus d'électricité. Et donc, il y a plein d'aberrations comme ça. Par exemple, sur Amé, il y a eu 1100 nouveaux habitants l'année dernière, rien qu'en une année. Il y en a qui partent, hein, mais qui sont arrivés. Ils n'ont aucune idée d'où se trouvent les pastilles d'iode, du plan d'évacuation, où ils doivent se rendre, des vents dominants et de ce qu'il faut faire en cas de catastrophe.
Au centre de crise, on est bien conscient qu'une grande responsabilisation doit encore s'opérer auprès des citoyens belges.
Les citoyens sont aussi responsables face aux risques. Nous, on souhaite de plus en plus que cette culture du risque se développe au niveau des citoyens, pour que, lorsqu'il se passe quelque chose, le citoyen puisse agir selon les bons réflexes. Il faut que chacun comprenne qu'il doit être conscient des risques qui l'entourent et puisse pouvoir bien agir. Voilà, il se passe quelque chose. Non, je ne vais pas commencer à courir partout dans la rue, à hurler. Ou par exemple, il se passe la situation d'urgence au Japon. Il y a des gens qui, ici en Belgique, prennent leur comprimé d'iode. C'est tout à fait irresponsable, inconscient. Alors qu'on leur dit 20 fois, 100 fois, 1000 fois, ça ne sert à rien. On ne pourra jamais tout prévoir. Jamais. On peut faire du mieux qu'on peut. On peut agir en bon père de famille et essayer de prévoir un maximum de choses et au moins avoir les bons réflexes. Ça, c'est le rôle des autorités d'agir au mieux.
Au moment de conclure cette enquête, un sentiment contrasté prédomine. Seule solution pour les uns, aberration pour les autres, le nucléaire n'est certainement aucune des deux descriptions extrêmes que l'on en fait. Deux faits sont néanmoins avérés. Il serait impossible pour la viabilité énergétique de la Belgique de s'en séparer maintenant. Mais il apparaît clairement que cette énergie sera remplacée dans un avenir plus ou moins proche. Car même si cette technologie est la plupart du temps bien maîtrisée, les risques encourus en cas d'accident sont beaucoup trop ravageurs que pour être assumés sur le long terme par la société. Concernant les plans d'urgence, il existe certaines aberrations qui doivent être corrigées. À ce titre, pourquoi ne pas généraliser l'envoi de SMS d'instruction plutôt que de les donner via des parlophones vétustes et inaudibles à plus de 20 mètres ? Il apparaît également paradoxal que les stress tests menés au niveau européen n'incluent pas dans leur cahier de charge les plans d'évacuation d'urgence. Difficile pour nous de conclure, car l'histoire de cette technologie n'est pas finie. Nous avons donc décidé de laisser le mot de la fin à Georges, un vieux briscard du nucléaire.
La crainte, elle est toujours là. Il y a toujours une crainte pour tout. Quand je prends mon véhicule et je vais sur l'autoroute et je roule à 120 ou 130 à l'heure, ma crainte, c'est qu'un jour, le pneu éclate et que je n'ai plus le contrôle de mon véhicule. C'est la même chose que ma machine. Ma machine, elle tourne à 100%, elle produit. Il ne se passe rien. Très bien. Voilà. Mais la peur, si on vit toujours avec de la peur, on ne fera plus rien. Et on n'évoluera jamais plus, d'ailleurs. L'homme, avant de voler dans les avions, il y en a quelques-uns qui se sont tombés de la falaise avec des ailes en plastique et en papier.